La semaine dernière, vous vous en souviendrez très certainement, à Jette, une expo avec une image du président du MR coiffé d'un entonnoir devant un drapeau américain sur lequel figurait une étoile de David. Eh bien, on a envie de parler de cela ce matin et on reçoit Joël Kotek, président de l'Institut Jonatas, historien et spécialiste des génocides, qui a écrit une étude sur le sujet pour l'Institut Jonatas, justement. Il est au micro lui aussi. De Blaise van der Linden.
Joël Kotek, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on en a déjà parlé cette semaine sur nos ondes et on voulait votre avis. La semaine dernière, à Jette, une exposition de l'atelier 34-0 a fait polémique. Alors, on y voyait notamment un Théo Franken dans ce qui semblait être une croix gammée. On a également vu une œuvre, si je puis dire, du président du MR, Georges-Louis Boucher, où on voit un drapeau des États-Unis avec une étoile de David à la place des étoiles d'État. On peut qualifier ces images d'antisémites, selon vous, Joël Kotek ?
Celle qui concerne Georges-Louis Boucher, bien sûr, c'est une certitude. Bon, je me fais fort d'être un spécialiste de la caricature antisémite, et il est certain qu'effectivement, cette caricature-là, elle est antisémite, bien évidemment, puisqu'elle représente Boucher dans une attitude, effectivement, de soumission à ce qui serait le lobby juif, etc. Donc, bien sûr.
Oui, justement, c'est quelque chose que vous étudiez, que vous avez beaucoup étudié. Et comment est-ce qu'on peut qualifier cela d'antisémite? Quels sont les détails qui font que c'est antisémite?
Voilà, ce qui est important à souligner, en fait, c'est que, en fait, il faut faire la différence entre une caricature et une caricature antisémite. Alors moi, j'adore la caricature. La caricature, c'est l'expression par définition, je dirais, de la démocratie, hein, c'est-à-dire la liberté d'opinion par excellence, la liberté d'expression. Donc, je suis un fan de caricature. Alors, une caricature classique, c'est une caricature qui exagère un trait, hein, et qui peut être même, qui peut la grossir de manière même, je veux dire, insupportable en quelque sorte, hein, je veux dire, de manière même outrancière. C'est une certitude. Donc, c'est vrai que la caricature peut déplaire, elle peut être de mauvais goût, etc. Mais c'est toujours une déformation, je dirais, du réel. Une caricature antisémite, c'est différent. C'est pas une déformation du réel, c'est une invention du réel. L'antisémitisme, c'est une invention du réel. L'antisémitisme, c'est l'idée que les juifs dominent le monde, les juifs sont riches, que, par exemple, aujourd'hui, qu'Israël commettrait un génocide à Gaza, etc. Donc, c'est une invention du réel, c'est de traiter aux juifs ou à l'État d'Israël une réalité qui n'est pas la sienne, ou qui n'est pas la leur, etc. Et c'est ce qu'on voit ici, à travers la représentation de Georges-Louis Boucher, qui représentait, effectivement, en noir et blanc, et pas en couleur, effectivement, comme, en quelque sorte, le jouet, la marionnette, de ceux qui dominent non seulement le monde, mais qui, en fait, dictent leurs lois. Donc, on est dans cette idée-là, dans ce trope antisémite, dans ces schèmes antisémites selon lesquels les Juifs sont les véritables maîtres du monde. Et donc, et naturellement, à travers ce dessin-là, le maître du monde, ça veut dire ceux qui contrôlent même la politique étrangère ou intérieure américaine. Et c'est ce que montre très clairement, effectivement, ce dessin, et qui nous montre... Alors là, c'est Georges-Louis Boucher, mais il y a d'autres caricatures que je montre dans mon étude. Ça peut être Zelensky, ça peut être Macron, où on voit des gens qui sont réduits à l'état de créature et de créature totalement dominée. Et dans le cas de Georges-Louis Boucher, il est représenté comme quelqu'un qui serait en quelque sorte, fou, qui ne s'appuie en contrôle de sa propre pensée, compte tenu du fait qu'il est sous contrôle des Juifs. Et c'est ce que montre, à mon avis, cette image-là, de manière extrêmement claire.
Oui, justement, vous l'avez rappelé, vous avez publié une étude sur l'Institut Jonatas, hein, vraiment qui analyse cette image. Il y a deux points importants, c'est ce fameux entonnoir dont vous avez parlé sur la tête du président du MR, et puis également l'étoile de David, hein, qui se substitue aux étoiles des États américains. Et vous le rappelez dans votre étude, cette étoile de David, elle représente moins Israël qu'elle représente les Juifs.
Oui, elle représente bien évidemment les Juifs, mais dans d'autres exemples que je montre, on aurait très bien pu montrer aussi le drapeau israélien. Bon, là, c'est encore, je dirais que c'est encore plus clairement antisémite que si on avait représenté le drapeau israélien, parce que penser qu'Israël domine le monde, domine les États-Unis, etc., bon, c'est aussi un trope antisémite. On sait que l'antisionisme radical est un avatar de l'antisionisme traditionnel, etc. Oui, oui, certainement, parce que je montre dans l'étude, effectivement, qu'on a pu représenter Zelensky aussi comme la créature-là d'Israël. Mais donc, c'est un trope ancien, qui vise, alors naturellement, on comprend que les progressistes ne se trouvent pas ça antisémite, mais ce qu'il faut savoir, ce trope-là, il est issu de l'extrême droite, c'est un trope classique de l'extrême droite, mais aussi, je dirais, de l'époque soviétique, puisqu'on a, je montre avec quelques exemples, aussi qu'en Union soviétique, à partir des années 50, où s'est développée une politique antisémite, ben, on a représenté les juifs comme dominant la politique américaine, ou les juifs, une égalité entre sionisme et nazisme, par exemple, etc. Et et je montre aussi que cette idée que les juifs contrôlent en quelque sorte la politique mondiale, elle vise non seulement George W. Boucher, mais elle a visé, par exemple, comme je le montre, Obama, le président Obama, président des États-Unis, qui lui aussi aurait été, lors de son mandat, la créature des juifs. Donc c'est un trope très ancien, etc. Et on a beau prétendre le contraire, cette caricature, alors est-ce que l'homme étant déconscient, le caricaturiste, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il, s'il n'est pas antisémite, ben, en tout cas, sa caricature l'est, par la force des choses, et de manière extrêmement claire.
Oui. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. On ne sait pas, hein, on ne va pas lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes à cet artiste. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que ce genre de caricature, ce genre de message, il est passé dans le langage commun ?
Oui, il est passé, mais il a toujours été dans le langage commun. Il est dans le langage commun, je dirais presque, depuis 2000 ans. Je veux dire, l'idée du juif maléfique, hein, l'idée du sorcier juif qui est en contact avec les puissants, etc., contre le peuple, n'est-ce pas ? Là, c'est un ressentiment populaire, etc., est très ancien. Il date, je dirais, précisément de l'époque médiévale et qui a conduit à des pogroms, etc., lors, à la suite de la première croisade, etc. Oui, alors ce qu'on voit à l'occasion depuis le 7 octobre, oui, ce qu'on voit, c'est ressurgir de manière décomplexée. En fait, ce qu'on assiste à une décomplexion de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un soi-disant artiste n'a pas peur, effectivement, de présenter au public ce type d'image antisémite, ces images, ces représentations antisémites. Et c'est extraordinaire aussi, c'est que les organisateurs de cette exposition, eux non plus, n'ont pas peur. Et finalement, acceptent, effectivement, de présenter au public. Donc on est, effectivement, depuis le 7 octobre, un retour de la langue antisémite, du vocabulaire antisémite, de la grammaire antisémite, dont on avait plus ou moins été privé depuis 1945. Aujourd'hui, il y a une libération de la parole antisémite, il faut l'accepter, bon, il faut le contester. Mais c'est une réalité, et il est très difficile, effectivement, de lutter contre, oui, ce raz-de-marée, effectivement. On a l'impression qu'il y a, voilà, il y a une sorte de joie à pouvoir enfin revenir aux tropes, aux idées que l'on avait et que l'on ne pouvait pas exprimer compte tenu du poids de la Shoah. Et donc je relirai aussi, alors je n'en sais rien, je pense que, est-ce que c'est un artiste ? Je ne suis pas sûr que c'est un grand artiste, le pauvre garçon, mais de relier, je crois que j'ai l'impression que cet artiste-là soit flamand, et je relirai ça en quelque sorte aussi à ce que j'appelle l'antisémitisme secondaire. N'est-ce pas l'antisémitisme, non pas malgré, mais à cause d'Auschwitz, et donc ce rejet de culpabilité qui amène beaucoup de nos contemporains en Flandre, tout particulièrement, à accuser Israël de génocide et à revenir à ces troupes qui ont causé quand même des dégâts considérables. On se souviendra quand même que 67% des Juifs d'Anvers ont été déportés, ont été assassinés durant la Seconde Guerre mondiale. Et toute cette vague aujourd'hui d'attaques, de retour à ces tropes, à ces schèmes, à ces représentations d'avant-guerre, ou de la guerre, naturellement aussi, est dans une certaine mesure une manière d'oublier ce passé, ou de faire passer ce passé qui jusqu'à présent passait mal. Oui, voilà, aujourd'hui, voilà.
C'était justement l'objet de ma dernière question, Joël Kotek. Vous l'avez rappelé, hein, notamment dans les années 30 et pendant la guerre, là, la propagande anti-juive a été énorme, hein, que ce soit du côté des nazis ou même du côté des communistes. Vous personnellement, est-ce que vous avez l'impression qu'on revient à ces temps-là, peut-être à une moindre mesure, mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est complètement libéré, ce genre de message?
Oui, bien sûr, c'est libéré, bien évidemment. Alors, les communistes, c'est pas durant la guerre. Hein. Les communistes, c'est à partir, effectivement, de la rupture des relations entre Israël et l'Union soviétique, lorsque la paranoïa de Staline a fait qu'il a vu dans tout juif un ennemi et un suppôt des États-Unis, etc. Donc ça, avec les grands procès qu'on a connus, à partir des années 50 et qui aurait pu conduire à un gigantesque pogrom des Juifs d'Union soviétique. Et heureusement, sa mort l'en a empêché. Donc oui, on retourne à ça. Je pense qu'on retourne à ça, à cette décomplexion, effectivement, où tout est permis et où, alors naturellement, sous couvert d'antisionisme, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est compliqué, il est presque encore, effectivement, compliqué, encore que certains le font, des gens comme Soral, de se dire antisémite, mais aujourd'hui, effectivement, en prenant prétexte d'Israël, on revient à des schèmes antisémites, parce qu'on revient à des schèmes antisémites. Et donc, en fait, cette caricature, encore une fois, ne parle pas de Georges-Louis Boucher, elle parle en fait des Juifs, puisque Georges-Louis Boucher est présenté comme quelqu'un privé de sa raison, hein, du fait qu'il est dominé par cette engeance qu'on appelle le judaïsme mondial. Et là, c'est en quelque sorte l'idée qu'avait fait Florès avant le nazisme des protocoles des sages de Sion, donc de cette assemblée des Juifs qui, en quelque sorte, aurait le contrôle du monde. Et c'est ce que nous dit cette caricature. Elle ne parle pas de Georges-Louis Boucher, même si le fait de stigmatiser de cette manière-là fait que Georges-Louis Boucher est victime d'antisémitisme. Un non-juif peut être victime d'antisémitisme à partir du moment où on le présente, selon la terminologie, comme verjuden, c'est-à-dire enjuivé, en quelque sorte. Mmh.
Joël Kotek, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Jonatas, vous êtes historien aussi, et puis on renvoie à votre étude, hein, sur www.jonatas.org en entier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka, à bientôt.
Merci à vous.